gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Oui, c'est la causerie à 22h05. Un petit décalage de démarrage, mais rien de bien grave. Donc, comme tous les dimanches de 22 à 23h sur Radio Canu, au 102.2 ou sur radiocanu.org, vous retrouvez la causerie après l'émission Angle Mort où j'ai perdu le nom de l'autre émission.
Le déporté du Cambrien.
Voilà.
Du Cambrien.
Voilà, et donc, Jean-Yves, salut.
Bonsoir.
Salut. Clara, ça se passe bien la technique?
Oui, très bien.
Ça va?
Ça va.
Alors, c'est cool.
Et Fab, ça va?
Ça va.
Super.
Tranquille. je vais rappeler les mails, pardon. Donc, pour nous écrire, c'est lacausericanu@gmail.com. Donc, si vous avez envie de soit nous parler de l'émission pour dire, voilà, vous avez aimé, pas aimé, soit nous donner des idées aussi de sujets, soit peut-être aussi vous dire, tiens, je voudrais bien voir comment une émission de radio, ça marche, n'hésitez pas à nous écrire ou à passer nous voir. Sinon, vous avez un blog aussi où vous retrouvez toutes les anciennes émissions. C'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie ou alors vous allez sur les blogs de Radio Canu, vous trouvez la causerie assez facilement. Et on a aussi un espace sur un réseau social très connu qui s'appelle Facebook, mais sur lequel nous ne répondons pas aux messages parce qu'on a un peu autre chose à faire. Non, c'est surtout qu'en fait on le met à jour, mais on le suit pas vraiment, et du coup on passe plutôt par le blog ou par les mails. Donc contactez-nous par là, ce sera beaucoup plus efficace. Voilà. Et donc on va saluer aussi les causeuses et causeurs qui ne sont pas là, et on les retrouvera dans d'autres émissions à venir. Ce soir, émission un peu dense, donc nous allons démarrer. Et c'est toi, Jean-Yves, qui va nous parler d'un sujet pas forcément très drôle, mais par contre très important.
C'est ça. Alors ce soir, ouais, je voulais vous parler alors d'un doc dont j'avais déjà évoqué le nom, je crois. C'était dans la causerie 130, c'était le 6 décembre en fait, c'était à l'occasion d'une soirée organisée par un collectif lyonnais qui se bat contre l'inceste et tout ça. Et c'est donc longtemps après, c'est une série documentaire de Brigitte Lemaine. Et alors... avant d'aller plus loin en fait dans ce qu'est tout ce documentaire, en fait c'est quoi cette série documentaire, je voulais présenter un petit peu Brigitte Lemaine, mais très rapidement. Alors quand même, vous avez bien compris que le documentaire c'est autour de l'inceste.
Oui. Hein? Ah oui.
Ouais, non mais voilà, c'était sur les conséquences de l'inceste. Voilà, ça c'est dit. Et donc Brigitte Lemaine, vite fait en fait, elle a commencé, enfin ce qu'elle, je reprends des mots qu'elle-même elle a rédigé, c'est qu'elle a commencé à faire des films en fait sur la maltraitance des enfants, enfin sur les enfants et sur les adolescents, à une époque où pas grand monde en fait en avait vraiment quelque chose à faire. Et en fait, elle s'est rendue compte au fur et à mesure qu'il y a sur certaines choses, par exemple sur le patriarcat, sur la domination masculine, etc., elle s'était rendue compte que dans les années 60, il y avait un gros travail qui a été fait par les féministes, autant de déconstruction des schémas de domination que aussi d'aide aux victimes, etc. Mais qu'en fait, elle s'était rendue compte que ça restait quand même un petit peu cloisonné et que... Bah, si ça reste cloisonné, c'est que ça reste quand même encore tabou. Et donc, en fait, à travers encore d'autres expériences, enfin, elle a tourné des documentaires, elle a une grosse filmographie, enfin, elle a fait plus de 20 films documentaires, enfin, qui touchent des univers très différents. Et en même temps, je pense qu'on retrouve toujours les individus, en fait, au cœur de ces sujets. Ça pouvait concerner la langue des signes, les sourds et malentendants, les violences conjugales. Enfin, c'est assez vaste quand même son domaine, mais avec une touche quand même, je pense, bien particulière. Et en fait, de là, elle a aussi réalisé des films ou des docs sur la campagne de prévention des abus sexuels. Et c'est là aussi qu'elle découvre qu'en fait, c'était en 93, pour situer quand même dans le temps, et c'est là en fait qu'elle le dit d'elle-même, elle découvre qu'en fait, ça peut aussi toucher les garçons, ça peut aussi arriver aux garçons, et pour elle, c'était une étape supplémentaire encore, et pour elle, mais aussi pour le grand public en fait. C'est aussi une déconstruction, certains schémas, où des fois on avait sûrement peut-être tendance à penser ou à croire que en fait, certaines choses n'arrivaient qu'aux femmes ou aux petites filles. Sauf qu'en fait, ça arrive aussi au petit garçon. Et elle a encore réalisé d'autres documentaires toujours sur cette sur ces choses qui touchent aux maltraitances, etc., hein, comme je vous le disais en intro. Et en fait c'est pareil, elle s'est rendue compte que oui, effectivement, ça a avancé parce qu'on en parlait un petit peu à la télé, mais comme elle le dit, c'était toujours un peu entre deux, trois sujets un peu plus scabreux, un peu plus pourris, où tu te dis, bon, en fait, est-ce qu'on veut vraiment apporter quelque chose au public, ou est-ce qu'on est là un petit peu aussi dans du voyeurisme plus que malsain? Et
placer un peu, c'est les années Coucou c'est nous, c'est ça, et compagnie,
ouais. J'y ai pensé,
d'infotainment, comme on disait, où on faisait plus de divertissement qu'autre chose, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça.
Et c'était censé défricher des sujets de société ou autre, et en fait, au final, ça tournait un peu au grand guignol, et c'était même, à mon avis, plus traumatisant pour les victimes qu'autre chose.
Je pense aussi. Et puis elle a aussi rencontré des victimes, qui, elles, en fait, disaient qu'elles n'arrivaient pas à se reconnaître, ces victimes, dans ce qu'elles peuvent voir à la télé. Et c'est vrai qu'elle s'est dit, tiens, je vais reprendre ma caméra, en fait, et on va essayer d'approfondir sur les conséquences aussi de l'inceste, mais aussi à l'âge adulte, en fait, quoi. Donc elle rencontre aussi, alors c'est pas un info comme ça, mais je trouve que c'est intéressant quand même de resituer aussi les personnages qui font des choses. Elle rencontre aussi Isabelle Aubry, qui est ou était, elle est, pardon, elle est présidente de l'Association internationale des victimes d'inceste. L'AIVI aussi, c'est dit, enfin, ou l'AIVI, enfin, c'est voilà. On en reparlera plus tard, je vous donnerai aussi quelques liens vers des assos et d'autres numéros plus qu'utiles. Et c'est pareil, là, en fait, elle se rend compte qu'en fait, qu'il y a un gros travail qui a été fait, en fait. Et ce travail a été fait par les victimes elles-mêmes, en fait. Elles se sont regroupées, et c'est ce qu'elle disait, en fait, par des réseaux sociaux, par des groupes de discussion. Il y a des choses qui avancent, quoi. Il y a vraiment, et ça, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment très très bien, quoi, là-dedans. C'est plus que nécessaire et utile, en fait. Je m'embrouille un petit peu. Et aussi un autre truc que j'ai retrouvé et qu'elle a introduit un peu dans sa présentation, dans un livret que vous retrouvez aussi dans le documentaire. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et en fait, je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est assez intéressant. Elle dit qu'elle apprend par exemple que les groupes spécialisés dans les traitements et l'approche de personnes soumises à des addictions comme alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes voyaient en fait souvent leurs usagers passer d'une conduite addictive à l'autre pour atterrir au final à survivants de l'inceste anonyme. Donc là aussi, il y a quelque chose de très intéressant et qu'on retrouvera aussi. C'est sur toutes ces démonstrations aussi de... Enfin, c'est même pas de démonstration, mais de réalité, de conduite à risque, de conduite d'autodestruction. Enfin, il y a vraiment. Vas-y.
Non, mais ne t'arrête pas à chaque fois que je m'approche du micro. Ça va être assez bizarre pour les gens qui écoutent. Mais
c'est vrai.
Ils n'ont pas l'image.
C'est vrai.
Non, mais moi, je voulais juste souligner quelque chose. C'est le décalage qu'il y a entre la France et les pays du nord de l'Europe et les pays anglo-saxons. La France a été extrêmement en retard sur les questions d'inceste et sur les questions des violences faites aux femmes, d'ailleurs, globalement. aussi. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que les termes que tu donnes, anonyme, ça, viennent plutôt du monde anglo-saxon au départ. Et on voit que voilà, il y a un vrai retard et que finalement, il s'est comblé par l'adaptation au départ d'outils qui étaient plutôt hors France. Et voilà.
D'accord.
Même si maintenant, ça s'est, à mon avis, beaucoup plus généralisé en France et le milieu associatif s'est ressaisi de tout ça. Mais par contre, au départ, c'est pas tout à fait le cas. C'est un peu comme pour Act Up ou des choses comme ça, où en fait, on avait du retard et du coup, on prenait d'abord les initiatives qui venaient de l'extérieur avant de les adapter plus à la spécificité. Mmh. Voilà.
Et je continue donc. Et elle décide donc effectivement de mettre en avant la parole des victimes d'inceste qui accepteraient de témoigner à l'image. Et parce que voilà, enfin parce qu'encore une fois, il est important pour elle d'illustrer les répercussions en fait que ça a en fait sur les personnes et sur la société aussi en fait. Voilà pour. Brigitte Lemaine.
Et du coup, longtemps après, c'est donc le travail qu'elle a fait, à quelle période ?
Alors justement...
Là, tu parlais des années 90.
Ouais, longtemps après, en fait, ça date... Alors, elle a commencé en 2007-2008 et faute de moyens, elle n'a pas pu aller vraiment plus loin et c'est en 2012, ouais, je crois, et 2013 ça a été édité, qu'elle a repris contact avec des personnes qui avaient déjà témoigné. Certaines ont refusé, d'autres ont accepté. Et ça, à la rigueur, je vais en parler tout de suite. C'est que dans donc, ce DVD, je vous parlais avant d'un livret, 39 pages, en fait, c'est un truc virtuel. Et en fait, où elle explique toute cette démarche, en fait, de toutes les personnes qu'elle a interrogées, de certaines qui n'ont plus voulu prendre part à la deuxième partie, on va dire, de ce documentaire. Et qui explique aussi pourquoi. Il y a par exemple, Aliam, qui lui, en fait, a témoigné par le passé, en 2007-2008, qui a dit « Vous pouvez garder mon témoignage sans problème, par contre je retémoignerai plus parce que je veux passer à autre chose. » Donc voilà, mais en tout cas, tout ça c'est vraiment très, très, très bien expliqué, je trouve, dans ce livret-là, qui est hyper, hyper dense, avec plein d'informations, vraiment. Voilà, et alors après cette présentation de Brigitte Lemaine, de son travail, elle se présente aussi comme sociologue. Avant d'être documentariste, elle est sociologue, philosophe et documentariste, cinéaste. Et voilà, ce que je voulais vous parler aussi, c'est ces différents témoignages justement qu'on a. En fait, le DVD, il se fait de 8 témoignages de personnes qui ont été victimes d'inceste et c'est suivi de 3 interviews, on peut dire, de spécialistes. Alors c'est psychologue clinicienne, psychiatre et psychogénéalogiste. On en reparlera après pour... Voilà, on va essayer de faire dans l'ordre. Hein. En tout cas, je vais essayer de faire dans l'ordre. Et donc voilà, donc ce que je me suis dit, c'est que je voulais un peu vous causer, alors c'est pas du tout, ce que je vais vous donner là, c'est vraiment de courts extraits, on va dire, de ce que les personnes vont tenir comme témoignage, mais c'est quand même pour vous donner un petit peu certains traits, ou alors justement pour montrer qu'il n'y a absolument pas de schéma, en fait, social. C'est pas chez les pauvres uniquement, c'est pas chez les riches uniquement. Il y a vraiment des schémas sociaux et familiaux qui sont très très différents. Donc voilà. Donc je vais vous prendre en fait, comme ça se passe sur le DVD, les témoignages, et je vais vous citer déjà qui témoigne, et un petit peu son parcours individuel. Donc ça commence par Martine et Bérénice, qui elle alors, c'est mère et fille. Et la mère, elle, a été victime d'inceste. Et ce premier témoignage, alors il y a bien évidemment le parcours de la mère, toute la violence qu'elle a subie et les viols qu'elle a subis, et le mal-être qu'il y a aussi. Et c'est aussi axé autour de la transmission, en fait. De la transmission de silence, de non-dit, de choses comme ne pas aimer son corps, et qu'en fait, elle transmet inconsciemment en fait à sa fille, et sa fille qui va être hospitalisée, je crois, et anorexique. Et donc là aussi, ça interroge beaucoup, c'est-à-dire sur ce mutisme que certaines victimes peuvent avoir, où elles peuvent penser qu'il ne va pas y avoir de transmission de ces choses-là, mais même un silence en fait se transmet. Et un silence qui se transmet, ça en dit toujours plus ou moins à la rigueur que des paroles réellement transmises. Donc il y a vraiment quelque chose de, enfin là aussi un très très intéressant. Et pour reprendre quelques mots, hein, c'est Bérénice qui dit on est vivant mais on ne vit plus, on survit en fait. Et on est en colère, elle le dit, qu'on se soit attaché en fait à ce monstre, etc. Enfin, il y a et elle prend une comparaison. Je termine juste sur cette petite comparaison. Elle dit c'est comme avec les Lego en fait. Il y a une grande façade, c'est une très très grande façade, mais en fait derrière la façade, il y a alors c'est pas que c'est vide, mais c'est mal construit. C'est ouais voilà.
Ouais, c'était le terme de survivante.
Oui, alors je sais pas si c'est Brigitte Lemaine qui a apporté ce propos-là.
Non, c'est un terme général en fait.
C'est
le terme qui est utilisé par toutes les associations de victimes.
Voilà. Eh ben merci pour le complément d'info.
Mais je le trouve fort et intéressant.
Oui.
C'est-à-dire que enfin voilà, ça met bien la notion de la destruction qu'il y a derrière, qui est voilà. Ouais. C'est pas juste un acte anodin qui arrive une fois, voilà. C'est un acte avec des conséquences fortes.
Ouais. Et avant que je continue quand même dans les témoignages, je suis désolé, je vous donne un peu des infos comme ça. En fait, c'est chaque témoignage dure une vingtaine de minutes. On ne dépasse pas la demi-heure. Donc là aussi, c'était quelque chose de neuf en fait pour la réalisatrice qui, elle, d'habitude, était quand même plus autour des formats 45, 50 minutes, 60, 75 minutes pour certaines fictions qu'elle a pu faire. Et en fait, c'est par son premier pilote où elle s'est rendue compte qu'elle avait fait que 20 minutes et que ça avait réellement, je vais utiliser ce mot-là, mais que ça avait réellement parlé en tout cas aux étudiants à qui s'est montré, parce que c'est aussi fait pour les formations de travailleurs sociaux, etc. Et que ça avait vachement ouais, plus en fait. C'était très parlant pour les plus jeunes.
On dit que 20 à 25 minutes, c'est la durée d'attention pleine devant un documentaire. C'est-à-dire, c'est pour ça que généralement dans les documentaires, on met les choses les plus importantes au début pour que les gens retiennent sur les 20.
Bah ouais, et puis elle disait, c'est que la société aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont un autre rapport aux médias, à l'image en fait.
Et au temps aussi.
Et tout ça. Donc voilà. Allez, je referme cette parenthèse de la forme des documentaires, des témoignages, pardon, et on va passer à la deuxième personne qui témoigne. Alors la deuxième personne, c'est Constance. Alors Constance, qui elle est dans une famille avec un papa qui est PDG, qui est un gros manipulateur. Elle va vraiment parler de différentes choses. Par des psys dites bipolaires. Sauf qu'en fait, elle le dit elle-même, je ne suis pas bipolaire en fait. C'est juste qu'on n'a pas voulu voir certaines choses en fait. Et elle raconte justement ce père, ce monstre, ou les mots qu'elle utilise, elle explique en fait la force manipulatrice en fait de ce personnage-là, parce qu'elle dit qu'elle était chez un psy à qui elle en a parlé. Le psy l'a convoqué, je crois, le père, en disant il faut que je vous parle. Et elle a dit, après un certain temps de discussion, il avait retourné le psy. C'est-à-dire que le psy, en fait, ne croyait absolument plus la version de Constance et était totalement d'accord avec les propos du père. Et donc, c'est tout ça, enfin. Et elle rappelle aussi quelque chose, parce que je trouve que c'est aussi à souligner, c'est ce besoin de se réapproprier son corps. C'est très important, et elle-même, je crois qu'elle est dans une association, et elle fait des massages, en fait, du corps à corps. Parce qu'elle dit, il y a besoin du toucher, de redécouvrir, en fait, eh ben, son corps, redécouvrir les sensations, se le réapproprier parce qu'il ne lui appartient plus. Et souvent, le corps n'appartient plus aux survivants et aux survivantes. Et que voilà, il faut absolument, et de la douceur, c'est ce qu'elle disait, de la douceur, etc. Et comme elle le disait, elle veut aussi absolument positiver les choses. Parce que, peut-être aussi parce que des fois, il n'y a pas vraiment le choix, parce que sinon, je pense qu'on a tout pour couler. En tout cas, elle aurait certainement tout pour couler. Et qu'il faut absolument parler. Donc voilà, c'est aussi un peu l'idée de ce soir, de parler de ce genre de documentaire-là et de ce sujet-là. Il faut absolument en parler parce que, même si les personnes qui ne sont pas victimes en parlent, une personne qui est victime et vous entend en parler, eh ben, elle pourra se dire, tiens, je pourrais peut-être me tourner vers cette personne-là pour lui parler. Et c'est absolument, enfin, je pense vraiment que les gens aussi qui n'ont pas subi ont aussi justement la place, une place en tout cas, je pense, de soutien autour des personnes qui sont victimes. Alors, peut-être que je me plante, mais je pense qu'on peut aussi être là pour ça. Absolument faire sauter les verrous du silence, quoi. Donc voilà, je continue sur le témoignage suivant, et c'est Isabelle. Isabelle, qui est oui, il y a deux témoignages floutés, dont Isabelle. Elle est, alors moi, elle m'a vraiment beaucoup marqué. Enfin, elle est, on sent cette personne, mais très, très, très à fleur de peau. On sent qu'elle est sur un fil, mais vraiment, elle est sur un fil et elle continue quand même de se battre. Enfin, c'est toute cette force de ces personnes-là qui témoignent. C'est juste, voilà, enfin, un chapeau parce que il en faut pour tenir.
C'est là que justement que le terme survivant et survivante prend sa dimension dans la résilience, c'est-à-dire le fait de devoir se battre pour pas couler, quoi.
C'est exactement ça. Et alors elle, ben pareil, alors elle, enfin, on resitue, hein, à chaque fois. Hein, c'est un père dominant qui décide absolument de tout. Mais alors, quand on parle des choses plus basiques à des choses... Enfin, je vais vous donner certains exemples quand même, parce qu'il faut aussi que ça vous parle, vous qui êtes derrière vos radios. Elle parle de cet exemple où un soir, en fait, il dit à sa fille « Tu vas remplacer ta mère ce soir, en fait, dans le lit. Tu vas venir dormir avec moi. » Alors, elle, sous la domination, s'exécute. Mais la mère aussi, en fait, s'exécute. Et on est aussi, justement, là, c'est tout un truc de... En fait, la domination, elle s'en rendra compte au fur et à mesure, c'est que l'emprise de ce père dominant n'était pas que justement sur sa fille. Il est aussi sur sa mère, qu'elle pense... Alors après, moi, j'ai plus les passages spécifiques en tête, mais elle pense que sa mère était prostituée, en fait, par son père. Ou si elle n'était pas prostituée, c'est-à-dire vendue contre de l'argent, elle était au moins, on va dire, offerte, entre guillemets, j'ai horreur de ce mot-là, mais on peut utiliser ce mot-là en tout cas. Donc elle est vraiment, enfin, elle va nous parler de sa vie, et Brigitte Lemaine va essayer de la faire exprimer tout ce ressenti-là, qu'on sent vraiment très, très, très douloureux. Et. On parle aussi elle parle d'autodestruction, de se libérer d'une parole, d'une douleur, pardon. Et je me souviens de ce passage-là où Brigitte Lemaine lui dit et les conduites à risque, est-ce que... Et là, elle dit non, pas spécialement. Bon, même si, quand même, des fois, j'aime bien appuyer avec mon ciseau sur le bras jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. Et en fait, elle dit juste, je me sens vivante, quoi.
C'est une autre façon de réapproprier son corps.
Et oui. Mais oui, et de se sentir vivant, vivante. C'est vraiment, enfin. Et elle parle aussi d'une grosse colère, on la sent et elle l'exprime. Elle dit j'ai une grosse colère, des fois j'ai envie de frapper les gens. Elle se l'explique, mais elle sait très bien d'où tout ça vient. Mais effectivement, c'est vraiment plein, plein de colère. Je continue parce que, enfin, il y en a quand même quelques-uns des témoignages et que je risque de faire un petit peu long. On a Véronique. Qui, au départ, elle nous parle de sa toxicomanie qu'elle a pu avoir, et c'est ce qu'elle dit, en fait. Je trouve que cette image est très parlante aussi, c'est que la violence de la prise de la drogue, là, après coup, elle a analysé ça, c'est que ça l'a renvoyé à la violence de l'inceste subi, en fait, de la violence et du viol subi.
C'est une punition, du coup, un peu.
Je pense que c'est toute la difficulté, en fait, de voir entre la punition et pas la punition. Enfin, je sais
non, mais
pas
envers elle-même, c'est-à-dire, je sais pas comment exprimer ça.
Je pense que sur le moment même, pour elle, c'était pas une punition du tout. Mais effectivement, enfin, l'idée
pas
quand
pas
même.
Pas forcément sur le moment, mais c'est
mais
que
l'idée, oui,
c'est l'acte en lui-même est une forme de ouais.
Perpétuation de la.
Ouais, puis faire du mal à son corps, quoi.
Oui, bah, la perpétuation de cette blessure et de cette violence subie, quoi. Effectivement, et alors elle vivait dans un milieu fermé où, enfin, c'est. Enfin, vraiment, on découvre aussi nos semblables humains, enfin, comment des fois ils évoluent, et c'est un milieu très fermé, presque communautaire, on va dire. Et voilà, enfin, et qu'elle apprend, c'est ce qu'elle dit, elle apprend à dire non, à se respecter, à respecter son corps, que c'est pas facile, qu'elle en a aussi, qu'elle avait aussi peur de la transmission, c'est-à-dire d'avoir été d'elle-même porter des gestes en fait incestueux. Et elle le dit, mais en fait c'est juste pas possible. Elle dit parce que j'ai un enfant et c'est juste pas possible. J'ai pas de sexualisation de cet enfant-là. Donc ceux qui le font, il y a vraiment une spécificité de rapport en fait avec l'individu qui est en face. Donc voilà. Enfin, elle essaye d'en parler autour d'elle. Elle a des soutiens. Elle a aussi du déni et que on n'est pas forcément soutenu par sa famille dans ces moments-là non plus. Et il faut absolument le rappeler aussi, c'est que la famille n'est pas ce terreau sur lequel on peut toujours compter. Ça arrive, mais pas tout le temps. Donc voilà.
On a une idée, par exemple, de quand quelqu'un révèle un inceste dans une famille. C'est ce que dans les témoignages, ils abordent ça, c'est-à-dire... Est-ce que généralement c'est plutôt compris ou est-ce que généralement c'est plutôt l'explosion de la famille, enfin plutôt l'isolement de la personne?
Alors il y a quelqu'un qui le dit, je crois que c'est une spécialiste, mais je ne retrouve pas dans
le. Non, mais on en parlera.
Peut-être que je vais le retrouver. Eh ben si, je l'ai là en fait. C'est une des spécialistes qui est psychogénéalogiste, donc ouais. Qui est liée dans cette transmission familiale, etc. et les rapports. Elle dit qu'en fait 80% des victimes qui parlent sont dénigrées et rejetées par leur famille.
Ouais, d'où l'importance de parler de ces sujets-là et d'ouvrir
des espaces
le dialogue
ailleurs.
Et des espaces. Ouais.
Effectivement, il faut absolument. Donc voilà, je continue, hein, enfin, vous m'arrêtez s'il y a des choses. Et, on continue avec Aliam qui est le seul gars qui témoigne dans ce DVD, mais qui a aussi, je pense, son importance pour les mêmes choses qu'on évoquait au début en fait. Alors Aliam, lui, vient d'un milieu, il vivait avec sa mère l'a placé chez ses grands-parents, parce qu'elle n'y arrivait plus, sauf qu'en fait elle s'était barrée elle-même de chez ses parents à 16 ans, je crois, donc il n'a pas vraiment compris pourquoi elle y allait, et que en fait, de là il est parti à 15 ans, il est parti à Paris. Et puis c'est au fur et à mesure qu'il avançait dans sa vie qu'il y a eu des flashbacks qui le ramenaient à des choses en fait antérieures à même, on va dire, une quasi-conscience de son corps. Enfin, ça s'est passé très jeune. Et en fait, il s'en est rendu compte parce que il allait vers des conduites à risque. Il explique, conduite à risque, et puis ça, c'est aussi lié à l'estime qu'on a pour soi-même, en fait, et à l'existence qu'on se donne à nos propres individus. Et il prend l'exemple de quand il est arrivé à Paris, justement, et il reçoit un contact pour dormir, etc. Et en fait, il sera violé par le mec, quoi, qui lui proposait le coup de main. Donc là aussi, il le dit lui-même, il a dit ça allait trop vite, trop loin, et l'impression d'être là, mais sans le vouloir, en fait, de ne pas pouvoir agir sur son réel, sur sa réalité, quoi. Et c'est, il a une image qui dit c'est comme une vague, en fait. C'est beau, c'est vraiment très très beau, c'est sympa, mais ça peut tuer un homme, en fait. Et il avait cette image là justement de choses comme ça et qui l'anéantissait en réalité. Et donc il s'est aussi prostitué, et il le dit lui-même, en fait, c'est de la prostitution qui disait pas son nom. C'est-à-dire que des gens lui filaient de la thune pour s'acheter des fringues ou des choses comme ça, et que en fait, ben, c'était en contrepartie à des services sexuels. Donc ça a un mot, effectivement. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment au fur et à mesure, il va se rendre compte que qu'il a été chosifié dès le plus jeune âge, en fait, et que en fait, il reproduisait quelque chose de la séduction, etc., et qu'il était un objet sexuel. Parce qu'en fait, c'était quelque chose qu'on lui avait, c'était le rôle qu'on lui avait attribué très jeune, en fait. Donc voilà, enfin, c'est, et je continue. Hein, vous me dites si je continue. Il y avait Lydia aussi, qui elle avait une maman qui était souffrante psychologiquement, qui avait donc un beau-père prédateur. Très organisé, en fait. Il l'a isolée, cette gamine. Il l'isolait pour pouvoir la violer plus tard, en fait. Et vraiment, enfin, elle raconte tout ça. Enfin, elle a vu, enfin, ses premiers viols, c'était à 10 ans, ça a continué à 12 ans. Elle l'a exprimé à sa mère, pas vraiment là, enfin l'a pas vraiment entendu. Et elle en parle, elle en parle aussi à un prof qui lui dit, parce qu'elle en parle dans une dissertation. Et le prof en fait la convoque pour la voir et lui dit mais enfin il dit moi je suis pas du tout, enfin je suis pas du tout là, je suis pas en position en fait de t'aider quoi. Donc là aussi on se dit ben quand même, enfin tu es un adulte, enfin tu devrais être en mesure de quoi. Donc là aussi il y a je pense que tous les professionnels de tous les côtés doivent être justement attentifs à ce genre de choses. Et elle en parle une troisième fois à quelqu'un, c'est à une amie de son père qui elle va l'aider, va parler aussi au violeur et donc elle va l'aider je crois dans ses démarches hein, tout ça. Donc voilà, elle en a parlé et c'est ce qu'elle dit, à 16 ans, en fait, elle a le temps d'oublier parce qu'elle voit que personne ne réagit, qu'il n'y a rien qui se passe, et que donc, bah, elle se dit, bah, allez, je vais continuer à vivre. À 16 ans, donc, elle est seule en appart, elle est livrée à elle-même. Et là, pareil, on retombe dans un jeu de... Il n'y a pas vraiment d'autre mot, mais de prostitution, en fait, et de services rendus contre de la thune, et enfin, tout ça. C'est de l'entraide, mais c'est pas vraiment de l'entraide, en fait. Hein. Donc voilà. Et elle a vraiment quelque chose qui lui arrivait. C'est qu'en fait, elle était dans une asso qui organisait un colloque, en fait, sur l'inceste. D'accord ? Jusque-là, elle avait absolument conscience de rien. Hein. Et elle devait s'occuper des victimes. Elle pensait aller très, très bien. Et en fait, elle s'est rendue compte au fur et à mesure du colloque. Que c'était d'elle qu'on parlait. Et elle se sentait vraiment... Et le lendemain, c'est ce qu'elle dit, elle dit le lendemain, elle était devenue suicidaire. Parce que d'un coup, merde quoi, on reprend conscience de choses qui se sont passées. Et c'est ce qu'elle a dit, elle s'est fait suivre, elle était hospitalisée, elle a eu un psy qui l'a aidé vraiment. Et elle le dit vraiment, elle lui dit qui l'a aidé à se reconstruire, à se reconnaître victime. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les victimes et les survivantes traînent, c'est ce fait d'être responsable de ce qui s'est passé. Et donc ça, elle le dit, et voilà, de prendre aussi conscience de son corps, d'avoir le droit de dire non, et de réintégrer, elle le dit elle-même, c'est de réintégrer son corps, de reprendre le contrôle, re-rentrer dans son corps. Donc voilà. Et je crois que j'ai un dernier témoignage peut-être, et c'est Laurie, c'est l'avant-dernier, qui va essayer de faire très court. Elle, c'est ce qu'elle disait, à 8 ans, on n'a pas le mot, mais on sait ce qu'elle a honte. Elle a été violée à l'âge de 7 ans par le concubin de sa mère. Tout s'est arrêté, la séparation hein, entre sa mère et ce mec, sauf qu'en fait, c'est ce qu'elle disait, elle était figée. Figé par la peur de le recroiser, etc., etc. Et alors lui était aussi, il avait une panoplie de choses pour bien l'effrayer. Il lui disait que si elle parlait, en fait, il allait égorger sa mère, son frère et tout ça. Hein, on est dans la domination pure et dure. Donc voilà. Enfin, je veux pas faire trop long et je veux pas non plus. Je peux encore parler peut-être vite fait du dernier témoignage qui est là. C'est le témoignage d'une maman. D'une maman de victime qui, elle, à 55 ans, a appris que ses deux fils avaient subi l'inceste, étaient victimes d'inceste par un de leurs oncles. Et là, elle explique beaucoup de choses, en fait. Elle explique des événements écrans. Ça, c'est très intéressant. Elle disait, elle voyait ces jeunes, en fait, ces gamins, qui n'allaient pas bien. Et elle disait, elle le voyait à des moments où il y avait des décès, par exemple. Et elle se disait, ben tiens, en fait, ils vont pas bien parce que c'est lié à ça, en fait. C'est après, une fois que ses enfants lui ont dit, qu'elle s'est rendue compte que, ben non, en fait, elle avait bien vu des souffrances, sauf que c'était pas les causes, en fait, qui ont été bien posées. Et elle le dit, elle, ça, je voulais quand même vite fait vous le donner, c'est sur la famille. Elle a grandi, en fait, avec l'idée que seule la famille nous préserve. Et elle le dit, ça m'a verrouillé. Ça l'a empêché de voir que ça c'était possible aussi venant de membres de la famille. Donc voilà, elle parle aussi d'associations qui ont lui donné des conseils. Enfin vraiment, c'est je vous le conseille. Ça dure 5 heures, je vous préviens, c'est très long. Faut prendre du temps parce que faut aussi le digérer, même si on n'a pas subi des choses. Hein, mais c'est aussi beaucoup de violence qu'on se prend. Qu'on voit quoi, enfin tout ça et de situations qui sont vraiment pourraves quoi. Donc voilà, je vous ai parlé ça. On va passer un petit titre de musique. Vas-y.
Ouais, je voulais juste te dire avant, que comme pour tous les documentaires ou toutes les choses écrites, oui, il y a de la violence, mais c'est pas nous qui la subissons, c'est juste un témoignage, et qu'à un moment donné, la vérité et la vie, il faut la regarder en face, même si c'est pas joyeux, parce que c'est justement aussi une des choses qui fait qu'on passe à côté, parce qu'on dit non, moi j'ai pas envie de savoir parce que c'est trop violent, c'est sauf ça. Que c'est pas vous qui subissez la violence, c'est donc ça. À un moment donné, faut aussi apprendre à prendre un pas de recul pour accepter de voir la vie en face.
Carrément. On peut passer à la musique.
Fais pas ça, je serai sage comme une image. Alors pourquoi t'es pas gentil? C'est pas juste et moi, j'ai pas l'âge. Ça va me faire mal à la vie. C'est pas de ma faute à moi si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Que le silence, ça fait du bruit. Tu m'as dit que c'est un secret, et moi j'ai fait pipi au lit. Papa, c'est toi qui es le plus fort. Touche pas à mon corps. Papa, c'est toi qui es le plus fort. S'il te plaît, moi ça me crie dedans ma tête. Me fais pas ça, me fais le pas. Quand tu viens me voir en cachette, touche pas là, que je comprends pas. C'est pas de ma faute à moi si je peux pas faire ça. Moi je voudrais bien me punir, mais quand tu viens puis que tu restes, ça fait trop mal et c'est trop pire. Je t'aime et puis je me déteste. C'est vrai, tu sais, je t'aime. Alors touche pas à mon corps. C'est vrai, tu sais, je t'aime. Alors fais pas ça. Fais pas ça. Pas les yeux là où ça fait mal, et les mains là où ça fait peur. Moi je sais pas si c'est normal quand c'est tout sale à l'intérieur. C'est pas de ma faute à moi si tu veux me faire ça. Mais quand tu regardes tout partout, c'est pas du jeu, pis t'as pas le droit. Je sais bien que c'est pas des vrais bisous. Et puis d'abord, c'est pas tatoué. Même que c'est vrai, même que d'abord, touche pas à mon corps. Même que c'est vrai, même que d'abord. S'il te plaît, ne fais pas ça, papa, t'arrête. Fais-le pas, moi je t'aime que toi. Alors, je le dis dans ma tête, ne reviens plus, mais t'en vas pas. C'est pas de ma faute à moi si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Pourquoi personne y peut le voir? Tu m'as dit que c'est un secret. Pourquoi personne y veut savoir? Papa, c'est toi qui es le plus fort. Touche pas à mon corps.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu sur le 102.2 à Lyon ou sur Canu, radiocanu.org partout ailleurs. C'est toujours la causerie et on vient de s'écouter « Touche pas à mon corps » d'Agnès Bill. Et pour resituer quand même, je suis toujours en train de vous parler de cette série documentaire de Brigitte Lemaine qui s'appelle « Longtemps après » et dont le sujet ce sont les conséquences de l'inceste. Longtemps après. Donc après, justement, avoir évoqué tous les témoignages, très rapidement, hein, de manière peut-être pas la plus concise possible, mais en tout cas, j'aurais fait de mon mieux. Je voulais juste aussi parler vite fait des trois spécialistes qu'on entend aussi, qui sont interviewés. Il y a donc Evelyne Joss, qui elle est psychologue clinicienne, qui vraiment, je trouve qu'elle apporte beaucoup de choses, enfin, des définitions. autour des agressions sexuelles, enfin du maternage abusif, des choses que je connaissais pas du tout. Enfin moi, enfin elle m'a fait vraiment découvrir pas mal de choses. Les abus de pouvoir aussi autour de la position des adultes avec les enfants. Elle repositionne bien les enfants qui finalement ne sont toujours que dépendants des adultes et que si les adultes n'ont pas la bienveillance, et ben en fait, bah voilà, l'enfant ne pourra pas totalement s'en sortir tout seul. Hein. C'est à peu près logique. Voilà, et enfin, elle parle aussi, justement, elle définit le stress post-traumatique, pardon, les difficultés d'avoir des relations, d'établir des relations avec les gens, en fait, avec plein de nuances. Hein. Attention, ça ne veut pas dire que tous les survivants et toutes les survivantes sont des asociaux, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, il peut y avoir des difficultés d'établir des rapports, et je trouve qu'elle les démontre très bien avec beaucoup de nuances. Elle parle aussi du faux self, de cette construction qu'on se fait un petit peu, c'est presque une construction sociologique, hein, c'est un visage qu'on se donne en société, et elle utilise une très très belle image. Elle parle d'une écorce sociale où elle dit des fois l'écorce est tellement épaisse que derrière l'écorce il reste plus grand chose comme noyau. Des fois, il n'y a même plus de noyau. Vraiment, enfin, c'est très, très intéressant. Et puis, elle termine par que faire ? Eh bien, un petit peu ce qu'on fait ce soir, avec toute,
en toute modestie.
En toute modestie, s'il vous plaît. Et bah, c'est aider, c'est se faire aider, c'est reconstruire. Alors, elle pense effectivement que c'est très difficile de se reconstruire sans thérapie. Mais alors attention, là aussi elle est très critique avec les professionnels en disant que c'est pour elle, c'est de l'orfèvrerie de la thérapie. Et je trouve que ça a beaucoup de sens. Elle dit que trop de praticiens, enfin de médecins, etc. sont dans quelque chose de très comment dire, très ordonné, c'est-à-dire que chacun doit rentrer dans des cases, et qu'elle dit mais non, enfin c'est beaucoup plus complexe que ça, les comportements à risque, etc., etc., c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est suivi de l'interview d'une psychiatre qui s'appelle Muriel Salmona, qui pareil, enfin va parler des conséquences aussi, effectivement, hein, toujours de l'inceste. Elle parle que si rien n'est fait, 80% des adultes victimes auront des troubles psychotraumatiques, et si rien n'est fait avec les enfants, c'est 100% des enfants qui auront des troubles psychosomatiques. Donc voilà, donc plus tôt c'est pris en charge et plus rapidement ça peut aller mieux. Enfin voilà, il y a
Ouais, c'est dire quand on dit pris en charge, c'est avant tout une prise en charge psychologique,
oui,
pas une prise en charge médicamenteuse.
Non, oui.
Parce qu'il y a des gens qui craignent ça et on n'est pas du tout. Elle n'avait pas écrit un livre dont on avait déjà parlé.
Alors je ne sais pas si on en a parlé, mais je crois.
Pas parlé, mais elle a écrit un livre.
Oui,
elle a écrit un livre. C'est le livre noir des violences sexuelles.
C'est ça. C'est ça.
Enfin, elle en a écrit d'autres également, je crois.
Ouais. Et donc voilà, enfin pareil, il y a vraiment plein de alors je vais pas appeler ça des concepts, mais en tout cas des constructions, des choses qu'elle défait ou qu'elle explique. Elle parle de la mémoire traumatique, très intéressant, de l'anesthésie émotionnelle, où finalement voilà, on ressent plus rien plutôt que de ressentir des choses, etc. Et où encore on ressent des choses qui nous ramènent à ces choses enfouies en nous, etc.
Et ça a des symptômes.
Des symptômes, je sais pas
comment dire. Enfin, moi, anesthésie émotionnelle, pas à voir comment.
Alors, elle
ça
montre,
se traduirait.
Elle montre des IRM. Elle montre l'activité cérébrale. Alors, je vous la fais, tant pis, on va bouffer un peu de temps. Je suis désolé, mais parce que moi, je l'ai trouvé intéressant, oui. cet exemple. Donc, elle prend des IRM d'une personne victime d'inceste et une personne qui n'a pas été victime. Elle les met face à une image, un souvenir qui peut les renvoyer à quelque chose, et là elle montre en fait l'activité cérébrale. Chez une personne qui n'est pas victime, le cerveau est vraiment en branle, c'est-à-dire que là il y a le cortex qui cherche des infos, qui dit mais attention, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un souvenir, et l'autre qui dit non, en fait c'est qu'une image, c'est bon, tu peux te calmer, c'est qu'une image, ce n'est que fictionnel. Et donc là, on a vraiment, enfin, elle le montre, hein, il y a le cortex, etc., qui est dans tous les sens. Et la personne qui est victime, c'est vraiment ça, je trouve, c'est une anesthésie cérébrale aussi. Mais il y a un point qui lui reste incandescent, c'est justement c'est cette mémoire traumatique et ce souvenir en fait. C'est, enfin, moi j'ai vraiment découvert des trucs, c'est compréhensible ce que je vous dis.
Oui, c'est compréhensible, mais sauf que je vois pas comment dans la vie ça se traduit.
Ah,
ouais. parce que en IRM je peux voir, mais dans la vie comment ça se traduit dans l'attitude des gens.
Alors, elle parle aussi d'hypervigilance, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à, enfin, là aussi pas de généralité, attention quand
non,
je vous dis
une tendance, c'est une tendance, c'est pas une généralité. Et, définition.
Peuvent avoir une tendance à essayer de garder les choses sous contrôle pour justement ne pas être dépassé en fait par les émotions aussi.
Ouais.
Elle parle mince. Mais justement c'est cette anesthésie émotionnelle aussi en fait. Enfin, il y a plein de choses qui se rejoignent ou qui sont en lien. Cette anesthésie émotionnelle, c'est aussi, ben, c'est encore une fois pour moi, c'est une forme de contrôle en fait sur sa propre pensée, sur son cerveau, ou tenter d'en avoir le contrôle.
Difficulté à la confiance du coup, parce que pas d'empathie.
Ah ben oui. Oui.
Ou moins d'empathie.
Moins d'empathie. Ah oui. Enfin, oui, c'est évoqué par plusieurs des spécialistes. C'est la difficulté ensuite de refaire confiance, parce que on sait quand même, enfin, les survivantes et les survivants se sont quand même fait trahir.
Oui. Par la personne
et
qui, par une personne qui aurait dû être un référent.
Ben oui.
Ou une référente.
Ben oui, c'est toute cette chose-là aussi, quoi. Donc voilà. Et puis ça se termine par Noëlle Le Dréau, qui, elle, comme je vous ai dit, elle est psychogénéalogiste. Alors, c'est un petit peu. Elle l'explique, je trouve, un petit peu bizarrement, pas forcément toujours très bien. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose, je pense, d'intéressant. C'est sur la transmission, effectivement, des choses, sans forcément les vivre. Mais comme je vous en ai parlé avant, et comme le DVD aussi en parle, hein, avec le premier témoignage de Martine et Bérénice, je pense qu'il démontre très bien, en fait, cette chose-là autour de la transmission, en fait.
Du non-dit.
Du non-dit et d'autres choses aussi.
Oui.
Voilà. Eh ben. Ouais.
Mais moi, je voulais juste dire, j'ai pas vu le DVD, les témoignages et tout. Voilà. Et c'est bien parce que j'ai compris un peu de quoi ça parlait et tout. Mais je vais juste essayer de voir si je peux un peu voir un peu vers quoi on va. C'est quand on parle du longtemps après.
Ouais.
L'idée, c'est de montrer ce que ça entraîne, parce que c'est ce que tu disais dans les témoignages, et comment, enfin, et qu'on a des clés de plus en plus pour dégoupiller un petit peu les risques, on va dire, et accompagner les personnes du mieux possible. Et moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce qui manque finalement, c'est avant tout qu'on en parle. Mais on en parle. Et alors, est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des lieux? Est-ce qu'il y a des numéros? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut joindre pour se renseigner, pour pouvoir faire un peu. Ah, voilà.
Eh ben, effectivement. Eh ben, t'as tout bon. Eh ben, j'ai quelques noms d'assos, donc je vous enfile. Et puis, je vous le rappelle, tous ces liens-là seront mis sur le blog ça sera mis en évidence. Donc, il y a l'association dont je vous avais parlé avant. C'est l'Association internationale des victimes de l'inceste, AIVI. Vous les trouvez sur le site aivi.org. Ils font des. Alors il y a pas mal de documentation aussi sur comment entreprendre ces démarches, etc. Il y a aussi des groupes de parole de manière nationale. Il y en a aussi sur Lyon. Il y a des groupes de parole faits de survivants et de survivantes. Donc c'est aussi, encore une fois, c'est sortir de son isolement et aller vers les autres. Et voilà. Il y a aussi le collectif féministe contre le viol qui a déjà aussi organisé des campagnes autour de l'inceste, mais qui là aussi vous pouvez retrouver sur cfcv.asso.fr. et il y a le numéro SOS Viol Femmes Information, c'est le 0800 05 95 95 0800 05 95 95. Faut pas oublier le 119 qui est le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, et plus proche de nous, mais on espère peut-être les recevoir prochainement, c'est le collectif Troubles faites malgré nous, qui est donc un collectif lyonnais de lutte contre les violences sexuelles incestueuses. Voilà, j'ai été très très bavard.
C'était très intéressant.
Eh ben, tant mieux. Eh ben, on vous filera toutes ces infos, enfin les compléments, tout ça, sur le blog, vous le retrouvez. Et puis, ben, passe tout de suite à la ZIC.
Oui, peut-être juste dire que s'il y a des questions ou des témoignages ou des choses à apporter, n'hésitez pas à lacausericanu@gmail.com. Et comme on a pu le faire dans d'autres cadres, vous savez qu'on fait aussi des entretiens pour aussi des gens avaient envie de témoigner et d'amener leur... on l'avait fait avec Mélusine Vertelune, voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez cette envie-là, parce que ça peut aussi être un moyen aussi de poser des choses de façon anonyme s'il y a besoin. On sait aussi transformer les voix, on sait faire tout ce que vous voulez pour que vous soyez le plus à l'aise possible. N'hésitez pas, ça, voilà, on se fera le relais avec, j'allais dire avec plaisir, mais c'est une formule, mais voilà.
On va aider à briser le silence, voilà. En tout cas. Voilà, et bien on passe à la ZIC.
De retour dans la causerie et on vient d'écouter Junip avec le titre Your Laugh, Your Call.
Et c'est de quel coin ?
De Suède.
Ah oui, parce qu'avec Clara, on est toujours dans le Nord.
Oui, toujours dans le Nord. T'as une passion de la neige ou un truc, voilà. C'est quoi?
Bien, eh ben, nous avions un autre sujet, mais on va le comprimer, ouais. C'est pas grave. Mais du coup, on va faire les brèves.
Ouais, avant. On va faire les brèves. Et ben, ça commence ben, comme tous les lundis, on vous le rappelle régulièrement quand même dans la causerie, c'est la permanence juridique de soutien aux sans-papiers qui a lieu tous les lundis de 18h30 à 20h. C'est à la Lutine, si je ne me trompe pas, c'est au 91
rue Montesquieu.
Dans le 7e. Dans le 7e, effectivement.
Ensuite, donc, le 28 avril, ouais. Avec la grève interprofessionnelle et étudiants et lycéens qui est appelée, avec l'idée qu'elle dure et qu'elle soit dure, donc il y a beaucoup de gens qui sortent. C'est à 13h à la manufacture des tabacs pour la manifestation. Pour la grève, c'est dès le matin, si vous pouvez, de ne pas aller travailler ce jour-là. Voilà. Et puis, sinon, juste rappeler que c'est un appel qui est très très large, qui va de la CGT à la CNT.
Donc, et voilà, attention, CNT, CNTSO et CNT.
Voilà, et c'est donc très bien. Et du coup, voilà, ça montre qu'on peut s'unir pour contre cette loi travail qui est une régression énorme. Voilà.
C'est ça. Tu annonces l'info du vendredi qui est la diffusion.
Oui. Alors le 29 avril, c'est au cinéma Gérard Philippe. C'est l'Union locale de Vénissieux et l'Union locale CGT pardon de Vénissieux et la CGT Renault Trucks et la CGT Renault Volvo. Voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est y a plein d'usines là-bas qui proposent la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Comme des lions, qui est sur la grève des Peugeot. Voilà, qui a été un documentaire qui est fait par Françoise Davis, et qui Françoise Davis sera là en fait pour après la diffusion pour un débat avec des membres des différents syndicats. Voilà, et c'est assez intéressant parce que c'est quand même assez rare de pouvoir parler syndicalisme avec des syndicats et pas des sociologues. Ça change, ça fait du bien, donc je vous conseille d'y aller. J'ai rien contre les sociologues, mais je trouve que des fois c'est bien aussi d'entendre des gens de terrain. Et voilà, et donc alors c'est un petit peu cher l'entrée, c'est 6,60€, mais bon, c'est parce que c'est au cinéma Gérard Philippe et puis qu'il y a des frais. Voilà, et que sinon il y a un tarif réduit à 5,70€ pour les personnes qui sont au chômage ou qui sont dans des tranches qu'on peut avoir une réduction. Et sinon, c'est 4€ pour les moins de 14 ans. Voilà.
C'est ça.
J'ai oublié de dire à quelle heure c'était, pardon. Et oui, non, mais c'est dommage, et je ne l'ai pas noté. C'est un peu con ce que j'ai fait là.
Je crois que c'était 18h30.
18h30, c'est ça.
Je crois que c'était 18h30.
C'est 18h30, pardon, désolé. Oui, c'est ça, 18h30, j'ai retrouvé. 18h30, c'est les bas Gérard Philippe, pardon.
Et ben nickel. Et on voulait aussi vous inviter à aller au théâtre. On va pas vous payer la place, hein, c'est pas ça l'idée. Mais c'est vous soumettre l'idée d'aller voir une pièce qui s'appelle D'où vient cette putain d'odeur de cramé. Elle a lieu au théâtre. Le fou, c'est rue Fernand Rey, c'est pas très loin de Radio Canu. Et donc cette pièce, elle a été écrite et elle est jouée par Renaud Rocher. Il y a une musique qui est faite aussi en direct, un accompagnement sonore qui est très très bon, par Wendy Martinez. Et cette pièce aura donc, enfin les représentations auront lieu le jeudi 28 avril, vendredi 29 avril. Dimanche 30 avril à 20h30. Et le dimanche 1er mai, il y aura une séance, à 18h. Voilà.
C'est une très bonne pièce de remise en question d'une personne qui se dit que le monde va mal, mais comment on fait pour le changer ? Et c'est vraiment très très bien.
Oui.
Ouais, enfin, moi, j'ai trouvé ça. On l'a vu, pour rien vous cacher, les membres de la causerie, enfin certains, l'ont vu il y a deux semaines de ça. Et c'est vraiment un très très bon moment et très étonnant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien.
Bah, on est face à quelqu'un qui s'interroge sur ses propres lacunes aussi, sur limites. Ses propres limites et ouais. Sur ses propres postures aussi, peut-être des fois. Quoi.
Puis des fois, est-ce que ces limites qu'on se donne, c'est pas finalement celles qu'on veut bien se donner pour pas faire grand-chose ? Vous voyez, c'est tout un tas de questions ça, comme ouais. Ça qui reviennent et c'est vraiment bien.
C'est ça. Et on est face à lui qui est sur son petit canapé.
Comme ouais. Je vais juste vous dire la phrase de fin, parce que j'ai le programme. Un homme et sa télévision, les infos en continu, une lucarne sur le monde. Voilà.
C'est ça.
Ça, je trouve que ça introduit très bien la suite de la pièce, qui sera une discussion autour de tout ça.
C'est ça. Voilà. Donc c'est au théâtre Le Fou, où ils ont site internet, où vous pouvez peut-être passer au théâtre et vous trouverez les infos. Bah, c'est aussi du spectacle vivant, donc les tarots, c'est pas les mêmes qu'un ciné, c'est un peu plus cher, mais bah, ça vaut le coup aussi, en fait, quoi.
Et puis, le théâtre vivant, enfin,
le spectacle vivant,
ça, voilà. Les gens, ils aimeraient en vivre.
Ouais.
Voilà. C'est ça. Bizarre, mais bon.
Et, ben.
Quoi. Et la FRACO,
ah,
l'association,
oui.
Voilà, un petit coucou à Clara au passage, qui fait une soirée le 30 avril au 6e continent, 51 rue. Saint-Michel dans le 7e, voilà, c'est à partir de 21h et c'est donc bah, au profit de l'association FRACO qu'on avait reçu il y a quelques temps et c'est autour de la musique mandingue avec Roy Espoir de Kaloum, voilà, et il y aura aussi des démonstrations de maquillage traditionnel, voilà, autour de cette soirée, donc de la musique, des choses sympas et puis des gens très sympas. Voilà, donc c'est le 30 à partir de 21h au 6e continent dans le 7e.
Et après le 30, on passe au 1er mai. Et le 1er mai, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, si c'est 1er mai sans flicaille, c'est pas vraiment un 1er mai.
Et ouais.
C'est une célèbre chanson. Voilà. Non, bah oui, je voulais rappeler quand même que bah, le 1er mai, on manifeste, c'est bien, c'est mieux quand même. C'est pas juste un jour férié tranquille comme ça qu'on a eu gratuitement.
Mais c'est pas pour fêter le travail.
C'est
hein.
pas pour fêter le travail du tout. Je veux rappeler juste que le 1er mai, en fait, eh ben, on fête en réalité un deuil au départ. Et en fait, on est en colère. C'est un jour de colère. Parce que c'est lié à quelque chose qui date de 1886. Vous voyez, c'est pas d'hier, hein, mais voilà. Où à Chicago, en fait, bah, les syndicats s'étaient réunis pour porter une idée qui peut paraître aujourd'hui un peu folle. Hein, la loi El Khomri nous poussant à faire pas ça, mais à faire des journées, de la journée de 8 heures, vous voyez, et puis à faire en sorte que les enfants ne travaillent plus. C'est quand même fou, hein, quand même, hein, vous voyez.
Des utopistes,
des dingues. Voilà. Et en fait, ils s'étaient donc réunis, il y a eu un grand mot d'ordre de grève générale lancé pour le 1er mai 1886, qui a été extrêmement suivi, ce qui d'ailleurs fera dire à plusieurs analystes américains de l'époque, c'est-à-dire les journaux qu'il y avait, que ce 1er mai a retenti comme un boulet de canon aux oreilles du patronat. Vous voyez un petit peu la formule qui est magnifique. Mais c'était vrai parce que vraiment très 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 suivi. Et ben, bien sûr, quand dans ces cas-là, l'État ne trouve jamais mieux que de faire charger la foule. Hein, vous voyez, ça n'a pas tellement changé avec aujourd'hui. Et donc, 200 policiers vont charger la foule et ils vont faire irruption dans la manifestation alors qu'elle se passait pacifiquement, qu'il n'y avait rien, que les gens, en fait, discutaient entre eux. Vous savez, ces trucs que les gens croient toujours réinventer quand on fait une grève. En fait, on
discute
entre
nous. Ah oui, ils faisaient des nuits debout, en fait.
Voilà.
Mais
c'est-à-dire
en
que,
1800, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que, mais non, mais c'est le principe. C'est quand vous arrivez à vous réunir et que vous faites grève, généralement, vous parlez. Ça paraît bête, mais c'est ce qui se fait naturellement. Et donc en fait ça déplaît énormément, donc du coup la police va fendre la foule, 200 policiers en armes, attention on parle vraiment de policiers en armes, vont fendre la foule et essayer d'envoyer tout le monde vers ça doit être l'Hudson, je crois, le fleuve qui passe à Chicago, et du coup, alors ça me plante peut-être en géo, mais il y a un truc qui passe à Chicago, et du coup, on essaye de les repousser vers les berges pour qu'ils soient obligés de plonger, vous voyez, c'est très joyeux. Voilà, donc en fait, bah, face à ça, le 4 mai va être appelé un grand rassemblement contre les violences policières, parce qu'il y a des femmes et des enfants qui ont été blessés en plus de tout ce qui s'était passé. Donc du coup, ça va être à l'appel notamment des anarcho-syndicalistes de Chicago et des syndicats de Chicago, hein, qui ne se désolidariseront jamais d'ailleurs de ce qui s'est passé le 1er mai. Et donc en fait, cet appel, tout se passe bien, c'est une grande manifestation, il y a même le maire de Chicago qui est présent de l'époque. Hein, voilà, les gens dénoncent simplement le fait que tout se passait bien au 1er mai, pourquoi est-ce que la police a chargé? Et en fait, ben, on ne comprend pas pourquoi, d'un seul coup, 180 policiers surgissent et foncent vers la foule, aux ordres de qui, personne ne le saura jamais. Les historiens, encore aujourd'hui, se demandent qui a donné l'ordre, parce que, très clairement, il n'y a aucun ordre donné par l'équivalent de la préfecture de Chicago. Donc, personne ne comprend pourquoi ces 180 policiers vont surgir sur la foule. Et d'un seul coup, une bombe est lancée, et elle fera un mort et 10 blessés. Et à l'époque, eh ben, sont désignés comme coupables les anarchistes qui étaient présents. Et donc 8 seront arrêtés. Auguste Spee, Samuel Fielden, Adolf Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Ling et Oscar Neb qui seront arrêtés en fait à la suite de cette explosion. Alors depuis on sait que sur place il y avait les Pinkerton. Les Pinkerton étaient une milice patronale et que beaucoup de gens pensent qu'en fait c'était plutôt la milice patronale qui a lancé la bombe pour discréditer plutôt qu'en fait les manifestants qui eux venaient vraiment pacifiquement, on va le rappeler. Voilà, donc c'est il y a un procès qui s'ouvre le 21 juin, donc on voit la rapidité et la célérité. Ça doit nous rappeler un petit peu les comparutions immédiates. Vous voyez, c'est un peu le même principe. Vous prenez quelqu'un, vous faites en comparution immédiate, comme s'il n'a pas le temps de préparer sa défense. Hein. Et par une cour criminelle qui est Bah, qui est faite un peu sur ordre et qui est un petit peu bizarrement choisie parce que dans les jurés de la cour criminelle, il n'y aura que des gens proches du patronat ou anti-syndicalistes. Donc vous voyez, c'est un petit peu, elle est quand même bien choisie la cour. Hein. Voilà. Donc en fait, très clairement, le procès, c'est moins celui des hommes que celui du mouvement ouvrier en général, parce qu'en fait, on a pris 8 personnes pour servir de lampiste. Hein, et on a dit, c'est toi qui va payer. Bon, le procureur ira très loin, parce qu'il a dit, il n'y aura qu'un pas de la République à l'anarchie. C'est la loi qui subit ici son procès en même temps que l'anarchisme. Ces 8 hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury, condamnez ces hommes, faites d'eux un exemple, faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société. C'est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l'anarchie ou non. Voilà. Donc on est très clairement dans un procès purement politique. Tous les condamnés seront condamnés à mort, à l'exception d'Oscar Neb qui est écopé de 15 ans de prison. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu une truc. En fait, pour quelque chose de très très simple, c'est que personne n'arrive à prouver qu'il était même sur place.
Sur place,
donc, hein, du oui. coup, c'est un peu compliqué parce que lui dit, mais j'étais malade. Et ce qui n'était pas, en fait, un acte de défense, il était vraiment pas là. Et il était là le 4 mai, mais pas le 1er mai, vous voyez. Donc, c'est là que ça se complique un petit peu. Non, il était là le 1er et pas le 4 mai. C'est-à-dire qu'on l'a arrêté alors qu'il n'était pas présent quand la bombe a explosé. Donc, il dit, mais pourquoi moi? Donc, quand même, on va le condamner à 15 ans parce qu'il faut pas déconner.
Quand même.
Plusieurs actions vont être menées au niveau international, parce que c'est l'international, notamment l'IWW qui va beaucoup œuvrer à faire une campagne internationale, et notamment une réponse de la jeune naissance des bourses du travail en France qui vont toutes s'unir dans ce combat-là pour dire qu'il est inadmissible d'être condamné pour des faits de syndicalisme, et surtout parce qu'il n'y avait aucune preuve que cette bombe avait été lancée par les syndicalistes. Donc voilà, donc ça va être certains vont avoir leur condamnation à mort commuée en prison à vie, mais à chaque fois on veut qu'ils ne ressortent pas, hein, c'est très clairement ça. Et le 11 novembre 1887, Parsons, Engels, Spies et Fisher sont pendus. C'est ça qu'on commémore le 1er mai. Voilà. C'est le fait qu'on ait pendu des gens pour simplement le fait qu'ils aient résisté au patronat. On va être très clair, c'est ça le 1er mai. Ça n'a pas d'autre signification, donc vous pouvez essayer d'y coller tout ce que vous voulez, même si certains ont essayé de transformer ça en fête du travail ou je ne sais quelle autre bêtise. En fait, c'est une fête commémorative de la lutte syndicale et c'est une fête commémorative de la lutte tout court, et c'est avant tout ça. Et en fait, on commémore le fait qu'on ait assassiné des gens parce qu'ils ont osé se soulever pour demander quelque chose qui paraît juste normal, de travailler 8 heures et que les enfants ne travaillent plus. Voilà, il y aura 500 000 de personnes qui vont se presser à leurs funérailles, ce qui fera de leurs funérailles la plus grande manifestation. Je suis désolé, je rigole parce que j'imagine la tête des nantis de l'époque qui voient arriver 500 000 de personnes pour des funérailles. Donc c'est juste quelque chose d'énorme. Et voilà, et c'est pour ne pas oublier cette histoire qu'il sera convenu de faire du 1er mai un jour de commémoration. C'est une décision du internationaliste, c'est-à-dire c'est une décision qui est lancée au niveau international à partir des 1887, et l'idée est de dire que le 1er mai doit être la journée de lutte des travailleurs et en mémoire de ceux qui meurent sous les coups parce qu'ils luttent pour leurs conditions de travail. Et c'est pour ça que chaque 1er mai, en fait, quand vous descendez dans la rue, vous descendez parce que vous allez non pas défendre ces quatre personnes pendues, alors si, il y a celle-là, mais il y a les millions d'autres qui sont chaque année, enfin depuis ces années, assassinés, tués, réprimés, violentés, qui perdent leur vie, qui perdent leurs bras, qui perdent tout ce que vous voulez, parce qu'ils osent relever la tête et dire ça suffit. C'est ça qu'on commémore le 1er mai, et il serait temps de s'en souvenir.
Eh ben, voilà. On va tâcher de s'en souvenir avec tout ce que tu viens de nous dire. Eh ben, nickel, merci pour ce rappel historique, ça nous fait du bien. Ça
oui.
permet de voir qu'en fait, il y a des choses du passé qui nous reviennent, et puis aujourd'hui, on crée pas des nouvelles choses, et c'est pas grave, mais on perpétue certaines choses, etc.
Ouais. Ouais. Et moi, je vais juste ajouter quelque chose, pas sur le 1er mai, mais sur la nuit debout. Oui, on n'en parle pas à la causerie ou très peu, simplement parce qu'on estime qu'on en parle beaucoup ailleurs et que du coup, on n'a pas envie de vous en reparler ici, même si ça peut être intéressant. Allez participer si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans le fait de ne pas en parler. C'est juste qu'on en parle de partout, dans tous les médias, et qu'à un moment donné, on a envie de vous donner, quand vous venez le dimanche à 22h sur Radio Canu, autre chose
que Lyon Capital et autres médias mainstream.
Voilà, c'est juste ça, et voilà, c'est pas quelque chose d'anti, mais c'est juste que, je vais le dire à titre personnel, ce mouvement devrait peut-être s'inquiéter de comment est récupéré ce qu'ils font. Voilà, c'est un avis perso, mais quand on finit dans le Figaro, il faut se poser des questions. Voilà, ou dans Lyon Capitale.
Lyon Capitale, voilà. Quoi, avec des photos et des jolis témoignages. Enfin, voilà.
Là, par contre, c'est un jugement de valeur, je l'avais parfaitement.
oui, mais donc, voilà. J'assume aussi. Ben voilà, je crois qu'on prend... Oui, la causerie prend vraiment fin, il est 23h12, ouais, il est temps de vous laisser tranquille. Non, mais c'est pas de ta faute. C'est un peu de la nôtre. On vous souhaite quoi ? Une bonne nuit,
semaine, une bonne semaine et une bonne de lutte semaine. Et de grève.
Ouais,
voilà.
Faisons ça.
Et on va se quitter avec Maman Sani, qui est un Nigérien qui joue des instruments électroniques depuis les années 80. Il joue avec des synthétiseurs, des corgs, tout ça. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu. Et alors pourquoi je vous passe Maman Sani ? Parce que j'ai été un petit peu choqué d'entendre certaines personnes dire qu'en fait la musique africaine, en général, alors déjà j'adore quand on dit la musique africaine comme s'il n'y avait pas plusieurs pays en Afrique. Voilà, la musique africaine. Ouais. Mais la musique donc qui vient du continent africain. Africain serait que des percussions et des gens qui chantent et qui sautent sur place. Non, alors elle est extrêmement diverse et surtout, Maman Sani a été une grosse influence, je tiens à le dire quand même, pour Jean-Michel Jarre, oui, pour R, pour les Daft Punk, pour des gens comme Céron et c'est pas rien. Voilà, et donc c'est un des pères, on va dire, de la musique électronique. Voilà, et c'est hyper intéressant. Et il est toujours d'ailleurs, je sais pas s'il est mort d'ailleurs, pardon, excusez-moi, mais enfin, il était Nigérien en tout cas, du Niger, voilà.
Et il l'est peut-être encore.
Oui, je sais pas.
Voilà,
je sais plus, pardon.
Et ben, bonne soirée.
Il est temps que j'aille me coucher.
On va faire ça. Bonne soirée à toutes et à tous, bon courage, bisous, ciao.
Salut.
pas le choix, tu ne sais rien faire. De dédie-toi, ton manga est japonais. Contradiction et high-tech arrive à fusionner. Ta berline est allemande, l'Europe se veut grande. On délocalise à pouvoir et on en redemande. Ton smartphone est coréen ou californien. Addict, sans les réseaux sociaux tu n'es plus rien. Ton flic est marocain, mais bien content de trouver un coup ouvert à 5h du matin. Et comment peux-tu oser reprocher à ton voisin de pallier d'être un étranger? Ici y'a des frères et des sistas, facho racista, babababa, toi. Ici y'a des manas et des mouillards, tono nationaliste, babababa, toi. Ici y'a des frères et des sistas, facho racista, babababa, toi. Ici y'a des manas et des mouillards, tono nationaliste, babababa, toi. Ton hip-hop péricain, la musique est un langage universel qui à tous nous appartient. Ton écriture est latine avec les mots des magots, les politiques nous assassinent. Tes chiffres sont arabes, la technique financière resserre les liens du panier de crabe. Ta femme est russe car depuis tout petit joue à la poupée. Ça t'amuse, ton caractère est bien français. Quand le vent tourne, on sait où te trouver. Ta fin du monde, elle est maria. Ta paranoïa est inculquée par les médias. Notre crise est mondiale. Aucune tragédie ne doit devenir banale. Et comment peut-on oser reprocher au mec d'à côté d'être un étranger? Ici y'a des frères et des sistas, facho raciste, babababa par toi. Ici y'a des manas et des rouillards, tono nationaliste, babababa par toi. Ici y'a des frères et des sistas, facho raciste, babababa par toi. Ici y'a des manas et des rouillards, tono nationaliste, babababa par toi.
Nous sommes français.